I'm a man. Well, nobody's perfect. I'm a man.
Un chapitre 2 ce soir dans le Nobody's Perfect, le second Nobo de la soirée. Avec un chapitre 2, vous n'étiez pas là lors du précédent numéro, j'ai parlé de nos soirées d'Alan Hollinghurst et je voulais prendre le temps parce que c'est l'un des livres, deux, trois livres événements pour moi qui a fait mon été et donc je voulais prendre le temps pour en parler au lecteur. Donc je ne vais pas résumer, je vais la résumer très 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 rapidement la chronique de la semaine dernière. Je vous invite à aller l'écouter hein, tout simplement si vous voulez savoir un peu plus sur ce que j'ai pu raconter, entre autres sur ce titre magnifique qu'on a désossé. Le livre, il prend la forme de mémoire, le narrateur, Dave Wynne, un vieux comédien qui se raconte sans phare. Il était un garçon sensible, le garçon sensible de la classe moyenne de Foxley. On le suit, boursier dans un collège privé, le théâtre universitaire, puis alors celui d'avant-garde, qui consiste essentiellement à jouer à poil parce qu'on est dans les années 70. La bohème londonienne, les rencontres, les erreurs, tout ce que Dave vit, voit, entend. Hollinghurst nous le rend en visant juste entre onde mélancolique et coup de fouet sarcastique. Le salut du roman britannique est dans l'exactitude. À un moment, dans un jardin, il y a cette devise gravée « Sensim sine sensum ». Peu à peu, imperceptiblement, nous vieillissons. Et ce n'est que ça, ce livre. La vie et rien d'autre. C'est aussi un portrait de la Grande-Bretagne qu'on lit, de la Première Guerre mondiale au Covid, en collant au rythme ternaire des pas d'un agent triple, parce que Dave Wynne est trois fois marginal, on va y revenir le long de ce nobo. Mais avant, ce qui m'a plu, les mémoires, pour que ça soit crédible, il faut qu'il y ait un côté couleur locale, bouillon de culture. Et je vais vous partager un scrapbook, parce qu'en fait, il y a plein de petites références que moi j'ignorais puisque je sors pas de la classe moyenne de Foxley, je suis pas né après-guerre, donc plein de notations assez intéressantes. On a diffusé dans l'épisode précédent la chanson préférée de Dave et de sa mère Ava, qui est Tea for Two. On a diffusé Nos soirées de Leo Janáček, parce qu'il aime beaucoup la musique classique. Il y a aussi Dusty Springfield, que vous retrouverez à la fin de notre podcast. La police britannique conduit des vols de lait noirs. Dave trouve les nouvelles Zephyr très classe. Mais ça ne vaut rien à côté de la déesse Citroën de Mark Adlow, le philanthrope qui finance les études de Dave. La déesse, c'est vraiment la voiture pour demain, quasiment une soucoupe volante. On mange des biscuits Garibaldi. Ce sont des petits beurres avec des raisins de Corinthe. Le lemon curd est le dessert préféré de Dave. On boit un verre de Lucosa 2 ou de Lucozade noyé dans de la limonade ou un Pimm's ou alors un cacao avec une goutte de whisky Bell's. Esme, qui est l'amie spéciale de maman, réclame son Novo Maltini. Oui, un cocktail Ovo Maltine Martini Rosso. Un plaisir qu'on qualifiera d'anglais. À la télévision, c'est l'heure de The World of Wooster et les moments où il est permis de rire sont rares. Alors la série très populaire est adaptée des aventures de Jeeves, le majordome, et ce sont des livres de P.G. Wodehouse. Et c'est grâce à ça que Dave peaufine ses premières imitations et parvient comme ça à avoir une sorte de masque et parvient aussi à devenir un peu populaire dans cette école qui n'est pas tout à fait pour lui, il faut dire ce qui est, puisqu'elle est réservée à la classe supérieure par rapport à lui qui est boursier. À cette période, on commande beaucoup, souvent sans l'avoir vu, le scandaleux « Un amour pas comme les autres » avec Alan Bates. C'est un film de John Schlesinger, ça revient beaucoup, un film de 62. Et on a vu et revu « Au rythme des tambours fleuris », une comédie musicale avec Nancy Kwan, un exquis sexe symbole exotique, et c'est rare à l'écran une jeune star aux traits asiatiques. Dave lit beaucoup « Washington Square » d'Henry James, « Le Grand Maulne », Eschyle, Shakespeare et la Nuit des Rois que Dave joue à l'école. Divine Comedy, Mar-a-Lago by the Sea. On parle ce soir de nos soirées à la Nollinghurst dans ce Nobody's Perfect. C'est aux éditions Albin Michel. Je l'ai dit, Dave Wynne est un Anglais qui est trois fois marginal. C'est un comédien, c'est un métèque, c'est un gay. Alors le comédien, je ne vais pas traiter des secrets du monde du théâtre, les répètes, la vie des coulisses, les hôtels en province. J'ai parlé déjà un peu de ce secret gros comme le visage au milieu du visage, qui est celui des traits birmans. Nous sommes à une période où les Anglais sont particulièrement racistes. L'adolescent, par exemple, il aime les vacances dans les villes balnéaires, les vacances dans ces villes mélancoliques qu'on a un petit peu retrouvées il y a un instant avec Neil Hannon. Je cite « Sur la plage, au plus fort de l'été, avec la lumière derrière moi, j'étais presque un garçon blanc au bronzage cuivré. Je me sentais moins exposé en ne portant presque rien, juste mon maillot de bain rouge, cerise avec des rayures blanches sur les hanches. » Et donc le secret pour masquer un secret, eh bien c'est de s'exposer. Le secret pour masquer un secret, c'est de s'exposer. Oui, gardons cette idée-là en tête, parce que ce paradoxe du secret qui s'affiche est propre à la communauté queer. Le paradoxe serait ici un sophisme camp, ou alors une illusion gay. Alan Hollinghurst est le grand conteur de ce secret qui s'affiche. Rappelons que nous sommes dans une société cadenassée, et on peut parler d'homophobie institutionnelle à toute cette période. Des scandales éclatent, symptômes mortifiants à la face d'une Angleterre aveuglément prude. En 1954 se tient le procès sensationnel de Lord Montagu, et du journaliste Peter Wildblood pour, je cite, conduite indécente avec de jeunes aviateurs. Ce procès révèle au grand jour les abus perpétrés par la police dans sa chasse aux homosexuels. La décriminalisation. Voilà. Je voulais le faire passer, il n'est pas passé. La décriminalisation de l'homosexualité ne sera effective qu'en 67. Et lors d'un débat entre camarades, Dave nous avoue : j'ai dit avec une déloyauté pronominale instantanée qu'ils ne faisaient selon moi rien de mal, surtout s'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Ah, cette déloyauté pronominale instantanée des générations de gays savent ce que c'est. Les jeunes gays continuent d'osciller entre haine de soi, déni, aménagement du placard pour ne jamais en sortir. Notons, c'est vraiment important même, Alan Hollinghurst n'oublie pas la communauté lesbienne. Dans l'affaire Sparsholt, son précédent roman, c'était par la radicalité des nuits londoniennes. Ici, et c'est peut-être mieux encore, c'est par le réseau provincial et dissimulé de femmes mal mariées, de veuves épanouies ou celles qui, avec leurs compagnes, vivent dans l'effacement. Il manifeste de la tendresse pour elles toutes, cette chaleureuse pudeur atteint comme un sommet lors de la description de l'enterrement de l'une d'entre elles et de la réunion dans sa maison. C'était à sa manière un rassemblement remarquable. Peut-être 35 des lesbiennes désormais âgées qui avaient fait partie de la vie d'Esmi. Un monde avec son propre petit défi salutaire, sa belle indépendance d'esprit. Certaines avaient amené leur mari, bien sûr, et il y avait d'autres personnes, amis ou gens du métier. Les amis n'ont pas tardé à remplir le salon, portes-fenêtres grandes ouvertes, une ou deux femmes enjambant précautionneusement le seuil avec leurs cannes, leurs verres et leurs sandwichs pour aller s'asseoir sur le banc au soleil avec une allure à la fois d'invitée et de survivante. La jeune serveuse que Mrs. Perry employait aux boules allait et venait avec la bouteille et les vieilles dames la taquinaient et flirtaient avec elle, oubliant leur prudence quotidienne. Elle commençait aussi à oublier les funérailles et papoter comme elle l'avait toujours fait, de ce qu'elles avaient vu à la télé, des articles qui leur avaient plu pendant les soldes, mais qui n'étaient pas à leur taille. Et quand elle se rappelait la raison de leur présence, elle se montrait sincère et sans détour. Elle ne risquait plus de blesser Esmi, maintenant, en plaisantant de l'autoritarisme et de l'avidité dont elle était parfois capable. Vous le voyez, Benoît, Alan Hollinghurst, quand je dis il s'intéresse à la communauté des lesbiennes, mais il ne théorise pas pour autant. Hein, il n'est pas là pour nous dire des choses sociologiques, des chiffres, des données, des réflexions. C'est un romancier. Il trouve les scènes pour faire naître un ballet grimé de sentiments simultanés et contradictoires. Puis, en écrivant, il dénoue les rubans de cette pelote sensible. Et quoi que le personnage ressente, l'auteur saura le décrire. Ça, c'est impressionnant chez lui, la précision. Un exemple, parfois la gêne provient de la télévision. Ainsi, page 240, il fait de la performance du scandaleux Tom Jones une circulation compliquée de honte et de désir. Quand Tom Jones a eu droit à son émission spéciale, je suis resté assis, le visage en feu, devant It's Not Unusual. J'ai parlé pendant qu'il chantait comme si, avec mon goût bien connu pour la musique classique, je méprisais cet homme dont j'avais du mal à décrocher les yeux. Ça ne manque pas de swing, a déclaré Esmi. Le pantalon scandaleux que je faisais semblant de ne pas avoir remarqué l'amusait. D'ailleurs, dans l'affaire Sparshot, le précédent roman, le fils de famille, Johnny, connaît un embarras voisin à celui de Dave. Et on peut dire que la télé crée comme ça un syndicat britannique rouge-pivoine de personnages d'Alan Hollinghurst. Je vous lis les extraits de cette scène. Même chanteur, même soirée, autre salon. « Monte un peu le son, dit Norma. Lui, je l'aime bien. » En revenant vers l'appareil, le pouls palpitant plus vite, Johnny vit et entendit que celui dont elle parlait était Tom Jones, souriant et hochant la tête. Puis, quand la musique commença, les hanches, les genoux et les épaules agitées comme par des pistons. Il portait un pantalon noir moulant et une large ceinture dont l'énorme boucle couronnait le fameux renflement dont il était interdit de parler et que l'image médiocre ne permettait pas d'observer assez en détail. Les trois boutons du haut de sa chemise étaient ouverts et, tandis qu'il dansait, une croix brillait dans les poils noirs de sa poitrine. Les filles dans le public ouvraient tout grand les yeux et poussaient des cris aigus. Johnny connaissait toutes les paroles et les sentait glisser comme des mains sur le corps de Bastien et aussi un peu sur celui de Tom Jones lui-même. Les déhanchements du chanteur le faisaient rougir et il détourna le regard d'un faux air d'indifférence. It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh. Les déhanchements du chanteur le faisaient rougir à ce syndicat britannique du rouge pivoine. Rares sont les émotions qui provoquent réactions physiques aussi visibles. Rouge toujours, Verbouille, c'est un podcast qui revendique son à-peu-près-risme. Ce sont des conversations à feu roulant qui nous sont proposées, avec pour prétexte des expressions. Et je vous propose qu'on écoute un extrait d'un des épisodes de Verbouille où Matt livre un cas insolite de fierté de la honte.
J'ai jamais eu de punition formelle. Ça m'est arrivé de me faire engueuler. J'ai plusieurs souvenirs de ça, mais pas forcément du sujet, mais parce que ça m'a tellement gêné de me faire engueuler devant mes camarades que tu me connais, enfin, je suis rouge du visage naturellement. Il y a plusieurs photos de moi où je suis vraiment en mode betterave. Et il y a une photo qui existe toujours sur les réseaux dont je suis assez fier parce que c'est même pas moi. Oui, je vais te le donner. C'est même pas moi qui se faisais engueuler. C'était un autre camarade.
Ça t'a fait ça? Ça t'a rendu tout rouge de stress?
Mais c'était un gène de deuxième degré.
Ah mon Dieu, quelle angoisse.
Oui, moi, je suis mis vraiment mis comme un ballon rouge.
Oh, c'est parfait, une honte, et puis c'est parfaitement raconté en plus, une honte au second degré qui n'empêche pas la rougeur. Un sage a dit « la honte, ça passe quand la vie est longue ». C'est plutôt vrai. En attendant, ces camailleux de rouge, comme page 315 où Dave Wynn relève une brève coloration de Nick, son petit ami. Nick dit à Dave qu'il ne voit pas pourquoi il n'aurait pas accès à de grands rôles. Dave alors lui répond « As-tu remarqué que je ne ressemblais pas tellement, disons, à Alan Bates ?» Et j'ai souri pour adoucir mon ton cassant, son inconscience absolue de mon apparence physique, de ma différence, qui était chez lui une sorte de beauté éthique, semblait parfois dangereusement proche d'un mépris moins glorieux pour le problème dans son ensemble. Il s'est légèrement pourpré et a baissé les yeux sur sa main tandis qu'il l'a posée sur la mienne. « Ne sois pas bête, ton apparence fait juste partie de ton talent. Tu es qui tu es. » Page 343, Dave décrit un beaufard piqué par l'homme de sa vie au moment où il le rencontre. On pourra noter que Dev prend plaisir à noter des moments où, de honte, comme ça. Je cite. « Nous avons gloussé prudemment, ne sachant pas si nous étions des ennemis révélés sous leur vrai jour ou si nous profitions bel et bien de cette intimité inattendue. J'ai vu qu'il regrettait d'avoir rougi. Pourtant, ce rougissement était peut-être un raccourci, un moyen d'enjamber des pages entières de préambule pour accéder à d'autres possibles plus alléchants. Maintenant, sa beauté était sexy, comme s'il l'avait soudain allumé. » C'est parfait, vraiment, puisque comme Massiot qui nous expliquait cette sorte de fierté de la honte au second degré, ici, on a la honte, mais qui révèle la beauté, qui révèle l'attrait. Donc c'est vraiment, vraiment très, très joli. Alors le livre aussi, il abonde en bouffées érotiques nourries de longs regards clandestins du gay qui s'expose en se cachant. J'ai rappelé la semaine dernière, entre autres en citant, enfin il y a 15 jours, en citant pour le plaisir d'Hélène une scène d'anthologie, une scène de fellation d'anthologie, hein, vraiment, que y a les rapports sexuels étaient parfois voilà, ceux qu'on a dans des pissotières. Hein, quand on est chassé dans toute l'Angleterre, quand l'homophobie institutionnelle, eh bien voilà, la sexualité, les rapports sont très compliqués. Toutefois, donc, il y a beaucoup de, comme ça, de bouffées érotiques, de regards clandestins. Le professeur Hudson initiait Dave à la grande musique, mais il n'hésitait pas à passer son short pour l'entraînement des garçons. Je cite. Sur le terrain de rugby, en short noir et pull bleu, courant au gré du jeu pendant une heure et demie, il était une autre personne. Ses cuisses d'homme, poilues à l'extérieur, plus lisses à l'intérieur, où elles se touchaient et frottaient, et devenant soudain très velues au-dessous du genou, jusqu'à ses grosses chaussettes bleues d'étudiant. Donc là, on le voit, et ça continue jusqu'à la bohème londonienne, les ébauches de vie à deux. À un moment, Dave vit avec Hector, un magnifique comédien haïtien qui fera carrière à Hollywood d'ailleurs. Et il nous est dit, alors j'ai fait une copie absolument catastrophique, je vais quand même tenter de vous lire ce que j'ai noté. « Mes mains ont enserré sa taille. Il a dit, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et a reculé contre la porte, mais il m'a laissé l'embrasser dans un déversement sauvage de tous mes sentiments non réciproques. » Voilà, je vous propose qu'on fasse une pause avec Mackay McRaven. La dernière partie de ce Nobody's Perfect réalisé par Benoît, et nous écoutions Benoît.
Makaia McCraven, voilà, avec le titre Dream Another.
Et j'ai oublié un A en beauté. Merci d'être là et de remettre des A à la fin des mots. Donc, Nobody's Perfect ce soir avec Anthony, c'est moi au micro. On parle de Nos Soirées, le livre de Alan Hollinghurst. C'est aux éditions Albin Michel. Alors, un mot quand même, parce que je ne peux pas finir ces deux chroniques sans vous avoir parlé un peu de Giles Adlo. C'est un fils du philanthrope qui finance les études de Dave. Et la première partie de Nos Soirées peut être lue comme un hommage au Howard Hands d'Edgar Morgan Forster, qui était un grand écrivain édouardien dont Hollinghurst a poncé, c'est sûr, chaque volume. Et Giles, c'est la némésis de Dave, c'est l'ennemi juré d'une vie. Grâce à ce personnage, Alan Hollinghurst achève de dessiner le paysage social et historique de son roman. Et dès la première page, d'ailleurs, il y a un double symbole, puisque la famille de Giles est odieusement riche. Et on découvre les deux jeunes garçons sur une borne géodésique et équipée d'un podomètre. Et on peut dire que Dave et Giles font déjà le tour du proprio. On tient là déjà une affaire de territoire anglais, comme on l'arpente, comme on s'y repère, à qui il appartient. Donc la rivalité entre Dave et Giles est épisodique. On verra surtout Giles en enfant cruel, mais alors un véritable Geoffrey Lannister, hein, vraiment. Hein. L'été où Dave fut accueilli dans la noble demeure campagnarde des Adlo, Giles le blesse jusqu'au sang, l'humilie. Et le soir, dans le secret des chambres, il commet pire encore. Puis Giles apparaît comme le bourreau du collège, petit gestapiste en blazer à boutons dorés. Entouré d'une escouade de nervis, il humilie, il brutalise. Le livre est aussi une histoire de violence. Hein, il y a de la violence symbolique, sociale, mais il y a aussi de la violence dans ce pays, dans les quartiers, dans les petites villes comme à Londres. Puis on assistera à la résistible ascension de Giles Adlo. Il prend ses distances avec la philanthropie paternelle. « Mon fils déteste le beau », dira le père, tout est dit. Sa mère, elle, est exemplaire d'une déploration désinvolte et d'un fatalisme vague, genre « il a toujours été comme ça ». Il va devenir eurosceptique, national-conservateur. Voilà Giles fer de lance du Brexit. C'est une belle prise parce que son nom est surtout le nom de son père. Et c'est un homme prêt à se retrousser des manches pour se salir les mains. Par ailleurs, la mesquinerie ne s'estompant pas avec l'âge, on jugera avec quels moyens Giles Adlo continue de commettre des coups pendables à notre Dave, mais ça vous le découvrirez seul. Hein. Page 527, les milieux culturels et intellectuels apprennent une nouvelle folle. Giles Adlo est nommé ministre de la Culture. Alors ça, c'est à peu près aussi incroyable que si, je ne sais pas, Rachida Dati était nommée ministre de la Culture. Son inadéquation avec le poste était tellement risible que cette nomination constituait en soi un sinistre avertissement. Et on se quitte donc sous la verrière du British Museum où il fait un discours. Hollinghurst offre l'une de ces scènes où il excelle, mondanité du monde culturel et politique qu'il rend avec ce ton de caustic bitch au grand style. Encore une nouvelle preuve de ce que j'avançais au début du premier chapitre de ce double nobo admiratif. Alan Hollinghurst est l'écrivain qui annonce chaque cible qu'il vise et touche au centre chacune d'entre elles. Mais attention, à la fin de Nos Soirées, le filou oublie d'annoncer la dernière, mais vous sentirez un truc se ficher dans votre gorge, ouch, et les larmes couler. Nos Soirées, Alan Hollinghurst, c'est un événement parce qu'il a une œuvre de 400 romans, donc il faut se précipiter, il a peu écrit, et c'est vraiment formidable. C'est chez Albin Michel. J'aurais aimé vous retrouver le traducteur, mais je ne l'ai pas, je le mettrai en gros sur les réseaux sociaux.
Wasn't me who changed, but you. And now you've gone away. Don't you see that now you've gone, and I'm left here on my own, that I have to follow you. Left.